De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils enchaînent CDD et période de chômage et ils seront moins bien indemnisés à partir d'aujourd'hui. C'est la réforme de l'assurance chômage, volet calcul des allocations qui entre en vigueur. Sale temps pour les intérimaires, on va l'entendre dans un instant. Une augmentation et on bloque les prix. Les factures de gaz ne bougeront plus après ce mois d'octobre et jusqu'au printemps. C'est le bouclier tarifaire du gouvernement annoncé par Jean Castex hier soir. Explication à suivre. À la une aussi cette affaire enfin élucidée par la CRIM à Paris, le grêlé, tueur et violeur en série recherché depuis 35 ans, était bien un ancien gendarme. Confondu par son ADN, il s'est donné la mort il y a deux jours. La politique avec Xavier Bertrand qui ne veut toujours pas que les autres candidats à l'investiture se mesurent à lui alors qu'un congrès est prévu pour les départager. Les personnes âgées pénalisées par le tout numérique, une sur quatre a du mal à accéder aux services publics. Et avec vous Nicolas, tout à l'heure on parlera de la longue histoire de l'esclavage.
Autour d'un livre qui est une somme, une cathédrale, il s'intitule Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, publié aux éditions du Seuil. Une cinquantaine de chercheurs mobilisés sous la direction de Paulin Ismart et avec la participation de l'écrivaine Leonora Miano. Ce sont nos deux invités. Dialoguez avec 01 45 24 7000.
Et dans ce journal aussi, des chiens et des dog-sitters qui agacent dans les parcs. Et puis des installations ludiques pour découvrir la musique. C'est pour les enfants, mais ça pourrait bien nous plaire. À nous aussi, c'est à la Philharmonie de Paris.
France Inter.
Pour le gouvernement, c'est une incitation à travailler plus dans un contexte où de nombreux secteurs manquent de main-d'œuvre. Mais pour les syndicats, c'est tout vu. La réforme du calcul de l'allocation chômage qui entre en vigueur aujourd'hui est une injustice faite aux chômeurs. Plus d'un million d'allocataires vont y perdre, 17% en moyenne. On parle de ceux qui alternent donc CDD et période de chômage avant un durcissement des conditions d'indemnisation à partir du 1er décembre. Difficile à avaler pour les premiers concernés, comme ce demandeur d'emploi qu'a rencontré Léo Rosé à Quimper.
Éric, 50 ans, tient une pochette en carton pour aller à son rendez-vous Pôle emploi. Sans ses allocations, cet intérimaire ne pourrait pas joindre les deux bouts.
Si je travaille pas, j'ai un complément avec Pôle emploi, quoi.
D'un mois à l'autre, son volume de boulot est très variable.
Ça m'est arrivé dans un mois d'avoir une mission d'un jour ou qu'une mission d'un jour, ou comme aussi bien je peux avoir des missions d'un an et demi. C'est aléatoire, quoi.
Le durcissement du calcul des allocations inquiète Éric et la hausse à venir de la durée de cotisation de 4 à 6 mois est inacceptable pour cet ancien saisonnier dans l'hôtellerie.
Dans l'hôtellerie, oui, c'est clair, j'aurais été plus d'une fois le bec dans l'eau. Ouais. Bah, trouver une saison qui fait plus de 6 mois, c'est pas évident. Donc comment voulez-vous qu'ils arrivent à leurs 6 mois de travail pour avoir accès à leurs droits, quoi. C'est pas possible, quoi.
Cette incompréhension va se faire sentir dans les agences de Bretagne, comme à Concarneau, où travaille Guillaume Bourdic, représentant national de la CGT Pôle emploi.
Un certain nombre risquent de ne pas comprendre pourquoi leurs droits soient revus à la baisse, et ça risque concrètement d'engendrer des difficultés, des incompréhensions au sein des accueils de Pôle emploi.
Parmi les chômeurs bretons, il y a beaucoup de saisonniers dans le tourisme ou l'agroalimentaire, rappelle la CGT, qui conteste cette réforme.
Léo Rosé, France Bleu, Brésisel et les syndicats, effectivement, vont de nouveau attaquer la réforme devant le Conseil d'État. Ils avaient obtenu sa suspension au début de l'été. Voilà en revanche une colère sociale que le gouvernement ne veut surtout pas voir s'épanouir à 6 mois de la présidentielle, celle de ces Français qui subissent de plein fouet la hausse des prix de l'énergie. Presque 60% d'augmentation des factures de gaz depuis le début de l'année. Mais la hausse du mois d'octobre sera la dernière. Ensuite, les prix seront gelés jusqu'au printemps. C'est Jean Castex qui l'a annoncé hier soir, ainsi qu'une limitation de la hausse du prix de l'électricité. Explication signée Fabien Cazot.
Une dernière hausse en ce 1er octobre, puis plus rien jusqu'en avril. Pendant tout l'hiver, période où l'on se chauffe le plus, le prix réglementé du gaz restera stable. En échange, les baisses de tarifs attendues à partir d'avril prochain se répercuteront plus lentement pour les consommateurs. Objectif, permettre au distributeur Engie de reconstituer progressivement ses marges, mises à mal dans les prochains mois par les coûts d'approvisionnement qui continueront eux d'augmenter, plus 30% d'ici la fin de l'année. Concernant l'électricité, le gouvernement dégaine une arme fiscale en baissant la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE. Il compte plafonner à 4% maximum les hausses de tarifs. Pas de baisse de la TVA en revanche, mais le gouvernement l'assure, les surplus de TVA perçus seront intégralement restitués aux consommateurs. sous forme notamment de chèques énergie à hauteur de 600 millions d'euros. Le bouclier tarifaire fera quant à lui l'objet d'une clause de revoyure en mars pour s'assurer que l'accalmie des prix espérée au printemps sera bien au rendez-vous.
Mesurette électoraliste, selon Marine Le Pen, vous payez d'abord, ensuite vous paierez encore. Ça, c'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Les augmentations, ce sera juste après la présidentielle, a raillé de son côté Bruno Retailleau chez les Républicains.
Et voilà qui nous amène, Florence, à Xavier Bertrand.
Oui, qui a du mal, décidément, avec le principe du départage des candidats de droite à la présidentielle. Ça doit se faire lors d'un congrès des adhérents en décembre, mais lui redoute l'affrontement et plaide pour le rassemblement. Il appelle donc ses rivaux, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin, à le rencontrer très prochainement. Autre façon de leur demander de se ranger derrière lui, sauf que Anne Souhaitemont ne l'entende pas de cette oreille.
Il a mis les petits plats dans les grands, une interview au Figaro et un entretien sur France 2. Hier soir, Xavier Bertrand a tenté un coup de poker, proposant à ses adversaires à l'investiture de la droite une rencontre avant le 13 octobre, date limite de dépôt des candidatures au Congrès. Un objectif, rallier Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, derrière sa candidature. Je ne vais pas être en compétition avec ceux avec qui je veux gouverner. Problème, l'argument est le même depuis des semaines. D'après les sondages, Xavier Bertrand serait le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron au second tour. Pas de quoi faire plier ses deux principaux adversaires. Valérie, elle, n'a pas peur de la démocratie, contre-attaque un proche de la présidente de la région Île-de-France. Valérie Pécresse ira jusqu'au bout de la méthode de départage, prévient un autre soutien. Même détermination du côté de Michel Barnier. Pas sûr que le coup de pression de Xavier Bertrand fasse baisser la pression à droite.
Anne Souhaitemont, j'irai jusqu'au bout pour être traité comme n'importe quel autre justiciable. Nicolas Sarkozy se défend sur les réseaux sociaux après avoir été condamné à un an de prison ferme hier dans l'affaire du financement de sa campagne de 2012. L'ancien président a fait appel, comme il l'avait fait après sa précédente condamnation, 3 ans, dont un ferme, là aussi, dans l'affaire des écoutes. Et contre Alexandre Benalla, jugé à Paris depuis 3 semaines, le parquet hier a requis 18 mois de prison avec sursis pour les violences du 1er mai 2018 à Paris, pour avoir utilisé frauduleusement des passeports diplomatiques et pour avoir porter un pistolet sans autorisation. Et voilà une affaire qui fera date dans les annales de la crime. 35 ans que la police judiciaire de Paris cherchait à retrouver le grêlé, cet homme au visage abîmé qu'avaient décrit ses victimes encore en vie. Il en a tué 4 dans les années 80-90, dont une petite fille de 11 ans. On lui impute aussi 6 viols. Et c'était bien l'ancien gendarme, puis policier à la retraite, qui s'est donné la mort mercredi au Gros du Roi. Les analyses ADN concordent. Les enquêteurs l'avaient convoqué, persuadé que le tueur et violeur en série était un ancien de la maison, sans doute un gendarme. Patricia Touranchot, journaliste spécialisée dans les grands faits divers, connaît bien cette affaire. Au micro de Mathilde Munoz, ce matin, elle a raconté comment l'enquête s'était resserrée autour de lui.
Petit à petit, au fil des années, et du fait de ne pas trouver ce tueur en série, les enquêteurs et la juge se sont dit « Mais bon sang, il nous échappe depuis tant d'années. Visiblement, il s'arrête au moment où les crimes sont reliés par l'ADN. Le type s'arrête. » Donc là, ils se mettent à chercher à se dire « Il s'agissait vraisemblablement d'un vrai policier ou d'un vrai gendarme. » Et puis, il y a une technique aussi pour attacher ces victimes, et notamment un couple tué dans le Marais à Paris. L'homme, qui était par ailleurs hyper costaud, a été maîtrisé par le grêlé et attaché avec une espèce de garrot, ce qu'on appelle un garrot espagnol, avec un lien qui en serre le cou, qui rattache les pieds derrière un peu en gondole, les liens passés dans un tisonnier pour serrer plus fort. Et ça, c'est une technique commando, c'est une technique militaire.
Patricia Touranchot, micro de Mathilde Munoz dans le 5-7 ce matin. Rattrapée et placée en détention provisoire, l'ancienne secrétaire d'un camp de concentration nazi qui devait commencer à être jugée hier en Allemagne ne s'était pas présentée au tribunal. À 96 ans, elle a pris la fuite, quittant sa maison de retraite pour se soustraire à la justice. Son procès reprendra le 19 octobre. Refaire ses papiers d'identité, changer d'adresse, contacter l'administration pour tout cela, le plus simple désormais, c'est la démarche en ligne, passée par Internet, ce qui simplifie la vie, mais pas pour tout le monde. Les personnes âgées, entre autres, dont 1 sur 4 rencontrent des difficultés d'accès aux services publics, Alice Cachaner, selon un rapport que publie aujourd'hui la Défenseure des droits.
Payer ses impôts, percevoir ses droits à la retraite ou encore faire une demande d'aide sociale. Ces démarches administratives se transforment en véritable casse-tête pour les personnes âgées, mal à l'aise avec les outils numériques.
Elles ont rencontré des difficultés à contacter une personne.
Claire Edon, la défenseure des droits.
Elles ont constaté un manque d'information ou aussi une mauvaise information. Et puis l'absence de réponse des services publics. Et évidemment, tout ça crée de l'inquiétude.
Inquiétude, incompréhension, tant et si bien que plus d'une personne âgée sur 7 abandonne ses démarches et renonce ainsi à ses droits. Des difficultés accentuées pour les personnes handicapées, précaires ou qui ne maîtrisent pas la langue française. Pour Claire Edon, ce rapport doit nous interroger sur la place que notre société laisse aux personnes âgées.
Les personnes âgées ont les mêmes droits que nous. Et ce n'est pas parce qu'elles sont en situation difficile, en situation de dépendance, qu'on doit renier leurs droits. Une des façons de résoudre le problème, c'est de dire la permanence physique et la permanence téléphonique, ce sont deux choses qui restent absolument indispensables pour que les personnes aient accès à leurs droits.
Et la défenseure des droits de rappeler que la France compte près de 13 500 000 personnes de plus de 65 ans.
Alice Cachaner, côté Covid, alors que la situation continue de s'améliorer en métropole, l'épidémie fait toujours des ravages dans certains territoires d'outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, le virus a fait plus de 120 morts en un mois. Le confinement strict décrété le 6 septembre dernier va rester en vigueur jusqu'à lundi, mais sera-t-il levé? Vu le taux d'incidence, 700 cas pour 100 000 habitants, 30 à 40 hospitalisations par jour à Nouméa et une unité Covid qui frise la saturation. Béatrice Duguet.
Comme en métropole il y a un an et demi, les soignants ont poussé les murs pour faire face.
Nous, c'est notre première vague sur une population peu vaccinée, donc on prend ça en pleine figure.
Avec des patients dispersés sur un vaste territoire avec des îles, précise le docteur Thierry de Grélan, président de la commission médicale de l'hôpital.
On n'a pas de scanner, donc on va chercher les patients en avion. Voilà, il y a une offre de soins qu'on essaye de rendre la plus égalitaire possible malgré nos difficultés géographiques.
Sur les 500 lits du Medipôle de Kuthio à Nouméa, 400 sont dédiés au Covid, dont 60 en réanimation, et tout cela sans équipe supplémentaire. Pour éviter la saturation, trois hôtels, rebaptisés hôpitaux, sont réquisitionnés pour héberger des patients sous oxygène.
Ça nous permet de prendre en charge au final 150 patients de plus, des patients stables, qui sont donc surveillés par des équipes médicales et paramédicales. Mais ça nous évite d'avoir à surveiller ces patients à domicile.
En Nouvelle-Calédonie, un tiers de la population présente des comorbidités, diabète, insuffisance rénale, obésité, ce qui explique le nombre de patients en détresse, leur jeunesse et le nombre de morts en progression. Attentive, les équipes viennent de créer des structures de soins palliatifs à domicile.
Pour offrir aux patients la possibilité de mourir avec leur famille, c'est très dans la culture de notre pays. Il y a des équipes qui vont à domicile avec une psychologue, une infirmière et un médecin, accompagner les patients et accompagner les familles aussi, bien sûr.
Les soignants souhaitent aujourd'hui évidemment que l'élan vaccinal qui s'amorce se poursuive.
Béatrice Duguet, fini les avoirs et les remboursements qui traînaient pendant des mois. 16 compagnies aériennes, dont Air France, Ryanair, EasyJet, British Airways ou Vueling, s'engagent à rembourser les passagers dans un délai de 7 jours en cas d'annulation de leur vol. Alors que des milliers de consommateurs en Europe attendent toujours leur remboursement du premier confinement au printemps 2020. Et puis passeport, s'il vous plaît, la carte d'identité n'est plus utilisable à partir d'aujourd'hui pour entrer au Royaume-Uni. Les citoyens européens doivent présenter leur passeport, c'est l'une des dernières conséquences du Brexit. Quand on les croise dans les villes et dans les parcs, on commence toujours par se demander pourquoi ces gens ont autant de chiens, avant de comprendre qu'il s'agit de dog sitter, un petit boulot en plein développement. Il serait presque 230 000 à s'occuper de nos animaux, moyennant finances, souvent sans formation. Et ça se voit. Reportage au Bois de Vincennes et à Meudon, en région parisienne, avec Julien Morcelli.
Autour de Francesca, dog sitter, une quinzaine de chiens, pas tous en laisse, mais elle assume.
Une balade est exploratoire, en liberté, pleine de nouveautés et de recherches olfactives.
Mais pour se permettre de les lâcher, Francesca a dressé chaque animal pendant plusieurs heures.
Pour que mes chiens restent calmes et à l'écoute.
Sur le chemin de la balade, certains promeneurs s'arrêtent pour caresser les bêtes.
J'ai croisé des gens qui m'ont dit « excusez-nous » avec les chiens, donc vous voyez.
Mais d'autres, comme ce jogger, s'agacent un peu.
C'est dangereux pour les vélos, pour les coureurs.
Les animaux de compagnie peuvent aussi nuire à la biodiversité, écraser les nids d'oiseaux ou bien effrayer les petits lapins. Michel Béal travaille à l'Office national des forêts.
C'est des animaux effarouchés par ces chiens qui vont se mettre à courir, traverser une route, être tapés par une voiture.
Au printemps, la période de reproduction des animaux, il est par exemple exemple impossible de promener son chien sans laisse en forêt. Certaines mairies vont même plus loin. Depuis 6 ans, Meudon interdit carrément les sorties à plus de 3 chiens. Mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque dog-sitter, reconnaît Florence Pamplonne, adjointe à l'environnement.
Donc en ce moment, c'est un peu la foire d'empoigne. La solution, c'est de mettre à disposition un terrain dans la forêt pour la promenade de ses chiens. Et nous attendons que l'ONF mette en place cette organisation.
Pour l'instant, les restrictions restent dissuasives. La mairie de Meudon n'a dressé aucune amende.
Julien Morcelli, 0-0, nouveau match nul pour l'OM en Ligue des Champions hier soir, tenu en échec à domicile par Galatasaray, lors d'un match qui a dû être interrompu quelques minutes pour cause de jets de fumigène et de pétards depuis la tribune des supporters turcs. Enfin, voilà un lieu dédié aux 4-10 ans. Mais on a très envie d'y aller. C'est la Philharmonie des enfants qui vient d'ouvrir à Paris. Un espace ludique dédié à la musique avec une trentaine d'installations. Les enfants ont le droit de toucher à tout, d'explorer et surtout de jouer. Ils ne s'en privent pas, comme l'a constaté Stéphane Capron.
Marie s'est mise dans la peau d'une chef d'orchestre. Elle dirige un ensemble virtuel grâce à un logiciel qui reconnaît ses gestes.
On a fait comme si on faisait un chef d'orchestre et on a fait jouer des faux instruments. Ça fait mal au bras.
Un peu plus loin, c'est ambiance studio d'enregistrement dans l'espace Graines de Star. Les enfants forment un groupe de rock. Amélie est chargée de jouer de la batterie en suivant une partition graphique.
Au départ, les notes n'allaient pas trop vite, c'était facile, mais à la fin, elles commençaient à accélérer.
Jouer au ping-pong sur un écran en guidant une balle au son de sa voix, c'est l'exercice périlleux auquel s'est livré Noah.
T'as le micro et tu chantes au même son que l'ordinateur dit. Tu fais monter la barre pour toucher le cube. Pour que la barre descende, il faut que tu baisses la voix.
Mathilde Michel-Lambert est la directrice de la Philharmonie des enfants.
On cherche à créer, à consolider le désir de musique. De toute façon, la musique est présente dans la vie des enfants très profondément depuis la naissance. Et s'attacher à ça, leur dire que ça va leur servir dans la vie, que ça peut leur donner de la force, consolider leurs apprentissages, les aider à vivre ensemble.
Les musiques du monde ne sont pas oubliées avec une énorme map monde interactive qui permet d'écouter tous les styles de musique.
Et voilà, ça se passe à la Philharmonie de Paris, à la Villette. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi matin.
Vous voilà. M'emmènerez, Florence.
Alors, j'y compte bien.
Grand plaisir. La météo, Stéphanie Fromentin. Merci, Florence.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Stéphanie, le répit aura été de courte durée.
Car une nouvelle dégradation arrive par l'ouest, apportant à nouveau des pluies et du vent. Ces pluies continues du nord-ouest au Pas-de-Calais sont accompagnées ce matin de vents soufflant par rafales de 50 à 70 km par heure près de la Manche. Elles vont gagner cet après-midi le nord de l'Aquitaine, le centre Val-de-Loire, la région parisienne et le nord de la Seine. Mais pour l'instant, les éclaircies sont bien présentes. Les pluies seront parfois orageuses entre l'est de la Bretagne et la Normandie. À l'avant de cette perturbation, des Pyrénées jusqu'au Massif central, sur la Méditerranée et le nord, le soleil fait des apparitions plus que notables au réveil, malgré quelques brouillards matinaux vers la Loire et le Val-de-Saône. Cet après-midi, le ciel se charge de nuages par l'ouest, le soleil se voile doucement et la vallée du Rhône sans nuages au rythme d'un vent de sud-est qui souffle à 50 km par heure.
Et le fond de l'air est frais.
Il y a la IEO notamment du Massif central au nord-est où il ne fait pas plus de 2 à 7 degrés avec localement des gelées sur le nord-est, les Alpes et le relief auvergnat. Sur le nord-ouest et près de la Méditerranée, le réveil est plus doux, 8 à 13 degrés. Cet après-midi, le mercure grimpe tout doucement, 16 à 20 degrés en général sur la moitié nord jusqu'à 22 en plaine d'Alsace, entre 20 et 25 au sud avec des pointes à 26 ou 27 en Provence et en Corse.
Stéphanie Fromentin, merci. Il est à tout à l'heure, il est 8h19, géopolitique, Pierre Raski.